Bonjour à tous. Alors, comme je l'avais dit récemment, notre église est appelée à être une église d'adoration, d'intercession, aussi de communion. Une église de communion. Et là, je vous adresse un appel à la prière. Ça fait depuis cet été que, en tant que conseil, on travaille sur le développement du secteur pastoral. C'est un travail de longue haleine. Donc on essaie vraiment de réfléchir à des stratégies qu'on va développer de manière concrète. Et ouais, on a vraiment besoin de vos prières pour la partie réflexion et aussi pour la mise en pratique, pour l'application. Et à propos de cela, à propos de la communion, j'ai été touché parce que Alice a dit, elle a nommé quelques personnes, elle a dit oui, ils ont participé à ma guérison. Et je crois que ça c'est aussi une des composantes de l'Église, c'est que oui, le Seigneur peut nous guérir, mais il peut utiliser des personnes, des frères et sœurs de l'Église pour nous guérir. Donc, quelque part, voilà, ça, on est tous un peu le gardien de notre frère ou de notre sœur, et on peut être un instrument de guérison. Donc, c'est très intéressant ce que tu as relevé, ça m'a touché. Et on est aussi une église d'action, et j'ai envie de dire aussi une église d'action de grâce. Et ça, c'est aussi une des dimensions de Soukhot, c'est, parce que c'est aussi la fête de la récolte, c'est de remercier le Seigneur pour tout ce que la création a fourni à l'homme. Et on est aussi une église d'inspiration, une église de transmission. Donc Julie nous a rendu attentifs à cette dimension-ci de transmission. Et enfin, une église aussi de persuasion. Après, il y aurait d'autres ions à rajouter certainement. Mais donc moi, j'aimerais qu'on continue à développer un peu cette notion de persuasion. J'avais posé les bases bibliques dans mon message précédent. Et d'ailleurs, il y avait quelque chose quand même de spécial qui était arrivé à la fin de mon message. J'ai dit, mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait si un jour il y a des personnes qui viennent, qui assistent à notre culte et qui disent à la fin du message, j'ai vraiment, mes chakras ont été touchés. Que dois-je faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va leur répondre? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, là, il y a un des piquets qui a failli s'effondrer. Moi, ça m'a fait un peu réfléchir parce que, et sérieusement, parce que ça aurait pu être grave. Il me dit, voilà, soit c'est un hasard, est-ce qu'il y a un hasard, soit il y a une réaction spirituelle, quelconque. En tout cas, voilà, est-ce qu'il y a un enjeu ou pas aussi? Bon, ça, je laisse ça à votre libre appréciation. Mais en tout cas, je crois qu'on est appelé aussi à être des instruments, oui, de persuasion. Oui, oui. Et il ne faut pas oublier que l'Église est appelé l'appui et la colonne de la vérité. C'est qui l'Église? C'est vous et moi. On est appelé à être appui et colonne de la vérité. Donc on est appelé bien sûr à annoncer la vérité, mais on est aussi appelé, je pense, dans une certaine mesure, à redresser ce qui est mensonger. Je crois que ça fait partie du job, entre guillemets. Donc j'avais aussi rappelé la dernière fois que Paul, lui, il utilisait bien sûr une double stratégie, à la fois d'action et de persuasion. Lui-même disait qu'il laissait Christ parler et agir à travers lui. Mais il parlait de parole et d'actes que Christ, quelque part, laissait jaillir en lui. Donc il y a cette double notion-là. Et donc par rapport à la persuasion, encore un petit rappel aussi, c'est que ce même Paul a dit que un serviteur de Dieu, est-ce qu'on est tous serviteurs de Dieu? Je pense que oui. Doit être propre à enseigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Redresser avec douceur les adversaires, pour moi ça veut dire redresser aussi les conceptions erronées qu'ils peuvent avoir. Mais avec douceur. Et il y a plusieurs passages qui relèvent qu'on est appelé à même défendre notre foi et à redresser, mais avec douceur et respect. Et si la Bible le dit 2-3 fois, c'est que c'est important. Et là, on est dans la culture de l'honneur, comme Luc l'a dit avant. Et la culture de l'honneur, c'est maîtriser un tout petit peu la culture et des systèmes de croyances qui ne sont pas les nôtres pour quelque part établir des passerelles, pour faire preuve de tact, parce que on peut rapidement être une occasion de chute vis-à-vis de personnes qui n'ont pas du tout la même foi que la nôtre. On peut être très maladroit aussi. Et il faut aussi savoir que des personnes, par exemple, comme des musulmans, chez eux, c'est générationnel, donc ça se transmet aussi de parents à enfants, et même dans le catholicisme, quelque part, il y a une sphère qui est affective. Et donc, si tu viens, et hop, tu détruis ça comme ça en une seconde, mais arrête avec ta Marie, arrête avec ton Mahomet, ça peut faire mal, et ça peut les toucher même dans leur identité. Donc, il faut y aller un peu mollo, pour le dire de manière un peu familière. Et n'oublions pas aussi ce même Paul à Athènes qui a dit, qui était en train d'évangéliser, qui dit « Comme quelques-uns de vos poètes l'ont dit. » Comme quelques-uns de vos poètes l'ont dit. Donc créer des ponts, des passerelles, mais pour créer des ponts et des passerelles, il faut connaître, bien sûr, il y a deux côtés, d'accord, deux côtés par rapport à un pont. Et il y a le nôtre qu'on connaît, mais l'autre, il faut aussi un peu le connaître si on veut établir de bonnes passerelles. Et regardez ce que ce même Paul dit à Timothée, très intéressant, parce qu'il fait un lien entre un phénomène dont je voudrais parler aujourd'hui, si on veut. Il dit dans 2 Timothée 4, verset 2. Il dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur, avec douceur, et en instruisant. Et là maintenant, car, il dit, mais pourquoi tu dois faire ça? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Et là, c'est une excellente définition d'un des mouvements pseudo-religieux qui se développe énormément dans le monde occidental et en France. C'est ce qu'on appelle le New Age ou le Nouvel Âge. Et je vous rappelle que Paul, lorsqu'il était à Athènes, il se promenait, son esprit était irrité. Il regardait différents hôtels, donc des hôtels idolâtres, mais à un moment donné, il dit, dans Actes 17, verset 23, « J'ai parcouru votre ville et j'ai considéré les objets de votre dévotion. » J'ai considéré les objets de votre dévotion. Il n'était pas là à dire il faut fuir ces hôtels comme la peste, sinon je vais être contaminé. Il les a considérés. Donc il a eu des petites réflexions au sujet de ces hôtels pourtant idolâtres. Donc moi je vous propose juste de considérer un tout petit peu ce qu'est le New Age pour être efficace dans notre témoignage. Alors déjà il faut savoir ce que c'est. Là je ne vais pas faire un grand exposé là-dessus, mais je voudrais juste vous donner quelques points de repère pour qu'on puisse justement faire ces passerelles lorsque vous serez amené à discuter avec des personnes qui sont empêtrées là-dedans. Alors déjà, New Age, c'est quoi? Il faut déjà, avant de le définir, savoir qu'on est entouré d'éléments du New Age partout, que ce soit à travers des magasins, des magazines, des publicités, de la littérature, des films, des hôtels spa, des posters dans les salles de sport. Au niveau médical, paramédical, je vous rappelle un des conseils que j'avais vu sur une affiche chez le kiné de ma fille, c'est en gros pour être serein, ayez recours à l'auto-hypnose et au yoga. Donc ça, tout ça, ça fait partie, donc le yoga par exemple, ça fait partie du New Age. Pas plus tard que hier, j'étais à la pharmacie, juste à côté du comptoir, il y avait une série de cailloux comme ça, de pierres, et il y avait marqué au-dessus lithothérapie. Alors telle ou telle pierre, elle enlève les acouphènes, telle ou telle pierre, c'est bon pour tel ou tel symptôme. Et j'ai demandé à la pharmacienne, est-ce qu'il y a des études qui prouvent que ça marche? Elle dit, vous savez, bon, elle a englobé de... Enfin, voilà, ils sont aussi commerçants. Elle m'a dit la chose suivante, mais que je trouvais intéressant. Elle m'a dit, vous savez, ça rassure beaucoup les parents. Donc, ça voulait déjà tout dire. Et moi, du coup, je les tiens, je voulais un peu creuser. Et j'ai trouvé sur Internet, d'où ça venait la lithothérapie. Alors je vous lis. C'est une croyance dans le pouvoir de guérison des cristaux qui a été popularisée dans les années 70 par le mouvement New Age. Ah, ok. Cette croyance n'a aucune assise scientifique. Donc c'est le fait de croire que des cailloux peuvent transmettre, peuvent guérir quelque part à distance. Chez nos voisins, pour ceux qui sont déjà venus, nos voisins qui sont, je pense, pas du tout croyants, pas du tout bouddhistes, ils ont créé une sorte d'hôtel à Bouddha. Donc ça en fait aussi partie du New Age. Vous allez à Cultura, tout de suite à l'entrée pratiquement à droite, vous avez tout un rayon New Age, avec des cailloux, un tas de choses, des livres. Dans le paramédical ou le médical aussi, par exemple l'ostéopathie, je ne dis pas que tous les ostéopathes sont dans le New Age, mais certains oui. Donc on avait rencontré un ostéopathe chrétien qui nous disait qu'il avait fait une formation très sérieuse. Il m'a dit il y a juste deux modules là où on nous parlait de chakras et là c'est voilà, il avait mis ça de côté, mais c'était seulement deux modules sur des années de formation. Un frère en Christ aussi qui était chez un ostéopathe et on lui a mis un sachet de lavande dans la poche pour que ça aille mieux. Donc je mets attention, hein, je dis pas que tous les ostéopathes sont comme ça, mais il y en a qui ils font des rajouts, vous voyez, qui font des rajouts à leur spécialité quelque part. Arts martiaux, tarot, tout ça. Donc, il faut savoir que le New Age, ce n'est pas un seul mouvement, c'est un peu confus, un peu diffus, c'est pas une seule organisation. Un synonyme qui pourrait peut-être vous parler, c'est l'ésotérisme, quelque part. L'ésotérisme est souvent, et là il faut faire attention, ça commence par des méthodes de réussite personnelle. Donc là aussi, on a de très très bons coachs qui véhiculent de très bonnes valeurs et qui sont clean, entre guillemets, mais d'autres qui en profitent pour ajouter ensuite des choses qui viennent du New Age. Et donc il y a des personnes qui peuvent ensuite être séduites. Alors, en gros, pour être de nouveau un peu familier et cru, le New Age, si vous voulez, c'est un supermarché. C'est un supermarché de croyances. Chacun peut choisir librement sa formule. On fait ses courses quelque part. Et souvent, on a des éléments, ou très souvent des éléments du bouddhisme, de religion asiatique. Donc on a affaire quand même parfois, voire souvent, des personnes qui n'ont pas trouvé dans la foi chrétienne ce à quoi ils aspiraient. Et là, je me suis posé la question suivante, quelle est aussi notre part de responsabilité en tant qu'Église? Et donc, ils se tournent vers les astrologues, vers la méditation, la parapsychologie, le spiritisme, ainsi de suite. Pourquoi aussi le Nouvel Âge? Parce qu'on pourrait aussi se poser cette question. Parce que ces gens partent du principe qu'on est dans l'ère du Verseau, qui serait une ère de paix et de prospérité. Et d'harmonie, ainsi de suite. Donc, quelques points de repère concernant les croyances du New Age. Le but, je vous le dis, c'est pas de glorifier ce mouvement, c'est d'établir des passerelles avec eux et d'annoncer l'évangile. Donc, pour les personnes, pour les adeptes du New Age, tout est divin, mais absolument tout. C'est-à-dire vous et moi, tout ce qu'on voit, tout est divin. Donc, ils parlent souvent de conscience universelle, l'univers. C'est une énergie, et donc une énergie qu'on est appelé à manipuler. Donc là déjà, ça peut faire réfléchir. Ensuite, quelle est leur conception de l'homme? Ben, logiquement, l'homme fait partie du divin, donc il émane du divin, mais il a oublié qu'il fait partie de cette conscience universelle, et il doit retrouver cette unité avec le divin, par ses propres forces, donc en méditant, en élargissant sa conscience. Ensuite, ce qui est intéressant à noter, c'est que ces personnes-là, certaines, aspirent à connaître par des techniques le passé et l'avenir, notamment l'astrologie. Et là, je me suis dit, mais regardez, le besoin qu'ils ont, mais il est comblé par les dons de l'esprit. Vous avez les paroles de connaissance, les paroles prophétiques, mais Dieu a pourvu à tout cela. Mais est-ce que ces personnes le savent? Quel est le but de la vie de ces personnes? C'est de se perfectionner, devenir meilleur. En soi, ce n'est pas un mauvais objectif. Mais c'est de nouveau par ses propres forces. C'est une religion, c'est un mouvement, c'est une religion, une croyance, de nouveau, qui se repose sur les œuvres de l'homme. Et là, je trouve aussi par rapport à leur perspective de la vie, voire de la mort, bah, je me dis que derrière la pseudo bonne nouvelle du New Age, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, parce que ils adhèrent à des choses qui ont, je trouve, d'énormes conséquences au niveau moral et éthique. Et je tiens juste à préciser que toutes les, vous savez, les personnes qui utilisent, qui vont chez l'astrologue, qui font de l'astrologie, tout ça, ou qui prennent, qui ont des bouddhas, ils savent pas forcément tout ça, d'accord. Mais c'est pour ça qu'une des manières aussi de les atteindre, c'est de creuser un peu avec eux. Ils disent, ah ouais, moi le bouddhisme m'intéresse, ok, mais viens, on creuse un peu, dis-moi, et quelle est la conception du divin, qu'est-ce qui se passe après la mort, ainsi de suite. Et là, on peut avoir des discussions intéressantes. Par rapport, par exemple, à la mort, il y a deux grands courants. Il y a un courant de personnes qui pensent qu'il y a donc des réincarnations successives, mais ils disent qu'avant de commencer chacune de nos vies, on opte pour une situation, ça peut être... par exemple faire partie d'une minorité raciale, avoir un handicap, et ça nous permettra de progresser dans la vie. Et il y en a d'autres qui sont plus proches du mouvement bouddhiste, en disant que la vie quelque part c'est quelque chose de mauvais, et on est enfermé dans un cycle de vie, et le but c'est d'en sortir. Et un des principes phares, c'est ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et donc, pour eux, par exemple, moi je trouve ça terrible, mais si quelqu'un est assassiné, c'est qu'il a certainement été assassin dans sa vie antérieure. Si quelqu'un est malade, c'est qu'il paye pour des actes qu'il a commis antérieurement. Et donc, moi, ça me pose la question du regard que ces adeptes du New Age porte sur les personnes qui sont en difficulté, qui ont un handicap ou voilà, qui ont des difficultés dans la vie. Le divin pour eux, c'est quelque chose d'un peu diffus, c'est une énergie, c'est pas vraiment une personne, c'est un peu des deux. Ils vont faire appel à ce qu'on appelle des guides spirituels, qui peuvent même appeler anges, vous voyez, et qui les aident un peu à se perfectionner spirituellement. Donc des anges, bien sûr, déguisés. Donc, comment peut-on créer des passerelles? C'est ça qui nous intéresse. Comment peut-on créer des passerelles avec eux tout en restant dans la culture de l'honneur, comme un Paul l'a fait à Athènes? Ben, je pense qu'on peut déjà dire que il y a une véritable recherche de spiritualité chez ces gens. Ils ont une soif d'authenticité, une soif d'expérience, une soif du surnaturel. Et ce sont des gens qui sont entiers quelque part. Il n'y a pas de dualisme, il n'y a pas d'hypocrisie. Ils veulent vraiment vivre une expérience holistique globale à tous les niveaux, et je trouve que ça c'est intéressant. Mais ma question est la suivante, c'est que si ces personnes-là savaient tout ce qui fait la force de notre foi dans toute sa dimension notamment si charismatique avec les fruits et les dons de l'esprit, je crois que ces personnes pourraient aussi être fortement intéressées. En tout cas, je reste encore sur le terrain de la persuasion. Et là, on peut déjà, tout d'abord, voilà, créer des passerelles et être dans l'honneur en disant ce que j'ai évoqué précédemment, en évoquant des points positifs. Mais après, on peut aussi les rendre attentifs à des points qui semblent un peu paradoxaux dans ce qu'ils prônent. C'est par exemple le divin, parce que le divin chez eux, c'est à la fois une force impersonnelle, mais c'est une force qui est aimante. Et mais en même temps, c'est toujours à distance. Il y a une espèce de froideur quand même. Et je cite quelqu'un, un adepte du New Age, qui dit « Le divin en tant que principe n'est pas touché ni ému par les appels au secours des enfants des hommes. » Et donc, ce qu'on peut dire, parce qu'il dit si, mais il y a quand même un côté personnel dans le divin, mais ce qu'on pourrait dire, mais s'il y a un côté personnel, s'il y a une dimension personnelle, c'est qu'il y a forcément une dimension relationnelle, et donc aussi une dimension morale. Parce que tout ce qui est péché, tout ce qui est moral, ça ne les intéresse pas. ils mettent ça de côté. Tout ce qui, ils sont choqués quand on dit à quelqu'un du New Age que le péché entraîne la mort spirituelle, ça les choque. Ça les choque parce qu'ils disent que on fait partie du divin et le divin aime de manière inconditionnelle, quelles que soient nos actions. Et ça aussi, je trouve que ça pose énormément de questions. Ensuite, il le dit, ça c'est peut-être un des points les plus connus du New Age, c'est que plusieurs chemins mènent à Dieu, donc plusieurs religions, et c'est clair que ça, du coup, ça suscite une forme de pacifisme religieux, suite aux guerres aussi de religion. Mais on peut leur dire la chose suivante, vous pensez ça, mais vous n'avez pas remarqué que effectivement, la plupart des religions sont des religions basées sur des œuvres, basées sur des efforts des hommes, où l'homme tente d'aspirer au divin. Et par contre, regardez, la foi chrétienne, elle, c'est la seule religion qui est basée sur l'œuvre de Dieu, qui est basée sur la grâce, et non pas sur les efforts personnels. Et c'est aussi la seule religion quelque part où c'est Dieu qui vient vers nous, comme ça avait été dit, je crois, la dernière fois. Là, c'est dans le New Age, c'est l'homme qui veut retrouver l'unité divine et qui aspire à la retrouver, tandis que c'est Jésus qui vient habiter en nous. Là, le mouvement est inverse. Ensuite, par rapport à la guérison, ils disent que la guérison physique est accessible à partir du moment où on envoie des pensées positives à notre esprit. Mais moi, la question que je me suis posée, c'est s'il y a échec, si les personnes ne guérissent pas, ils peuvent aussi avoir de gros sentiments de culpabilité. T'as pas éjecté assez de sentiments positifs, de pensées positives à ton esprit. Donc, vous voyez, j'ai l'impression aussi que quelque part, il puise, c'est comme Dieu, ils prennent ce qui les intéresse dans un Dieu personnel, mais ce qui, quelque part, peut déranger, par exemple la notion de jugement, ils mettent ça de côté, la notion de péché. Alors là, ils disent, non, mais Dieu est plutôt impersonnel à ce niveau-là, et quelque part, toute relation mêlant des pensées personnelles, des sentiments, tout ça, ils le mettent de côté. Vous voyez, c'est diffus. On est dans tout ce qui est énergie. Quelque part, c'est une manière habile d'évacuer notre responsabilité, quelque part. Et ils aspirent donc à la perfection, et donc ils mettent des vies et des vies pour aspirer à la perfection. Et ce que nous, on peut leur dire en tant que chrétiens, c'est que Christ, il nous a rendus parfaits en une seconde. À partir du moment où on l'a accepté comme sauveur et seigneur, c'est la Bible qui dit qu'il nous a rendus parfaits. Et on n'a plus comme ça à courir et à aspirer à cette perfection. Et d'ailleurs, ils ont un problème avec la notion d'enfer et de jugement et de péché. Mais moi, j'ai un tout petit peu réfléchi. Vous savez, la mort, effectivement, parfois elle peut être douloureuse. Mais nous, on passe une fois par la mort. Mais par contre, dans leur croyance, c'est des cycles répétés de vie et de mort. Même moi, je trouve que cette perspective-là, elle ne m'enchante pas, de me dire, tu auras encore 38 morts à vivre, de différentes manières, en fonction des actes que tu as commis dans le passé et que tu ignores. Donc ça, c'était quelques éléments, vous voyez, de persuasion. On pourrait aller, bien sûr, bien plus loin, mais le temps passe. Mais on a l'action aussi. Et quand je parle de persuasion, je crois que c'est bien d'avoir des petits points de repère, on va dire, comme ça, dans la poche, pour les dégainer au bon moment. Et j'aimerais faire ça, si possible, aussi avec d'autres mouvements religieux. Mais ça ne remplace pas l'inspiration, bien sûr. Le Saint-Esprit qui peut nous donner des paroles de connaissance pour des personnes, et les personnes, elles peuvent être touchées comme ça, en quelques mots. Mais après, si les personnes ont des questions, c'est quand même bien aussi, je trouve, d'avoir des petits points de repère, comme je l'ai dit. Parce qu'on n'est pas tout seul en faisant ça. On n'a pas besoin de puiser dans nos propres efforts, comme je dis, parce qu'on a le Saint-Esprit qui est là, on a Dieu qui est là, et parfois Dieu intervient alors même qu'on dort. Et je voudrais juste vous donner ce petit témoignage, parce que Huguette vous a envoyé un message, c'est un appel à la prière pour une dame qui a eu des idées suicidaires, qui a essayé de mettre fin à ses jours. Et il y a quelques jours de cela, j'ai fait un rêve, et là, on peut pas se glorifier des rêves, nous on est en train de dormir, on fait rien. Mais dans ce rêve, j'étais à la... C'était suite à ton mail, hein. Mais dans ce rêve, j'étais sur une plage, et il y avait vraiment de grosses vagues, c'était un peu la tempête. Et il y a deux dames qui sont venues vers moi, et que je connaissais pas. Il y a une dame qui me dit, moi je voudrais mettre fin à mes jours, je veux aller au paradis. Et moi je lui ai dit, et après je dis pas que quelque part c'est une parole d'évangile, mais je lui ai dit, oulala, moi je crois que vous commettez une grande erreur, parce que le Seigneur, vous parlez du paradis, mais le Seigneur Jésus, c'est lui qui doit être le Seigneur de notre vie et de notre mort, et c'est lui qui quelque part doit à un moment donné mettre terme à notre vie, mais c'est pas à nous de le faire. Et ensuite j'ai vu une barque comme ça sur le à la mer, et je lui ai dit, et j'ai commencé à pleurer pour cette dame que je connaissais pas. J'ai pleuré très fortement dans mon rêve, et je dis, regardez là cette barque, regardez comme elle bouge, mais ça c'est votre vie, ça sont les circonstances de votre vie. Et il y avait une deuxième barque juste à nos côtés qui était sur le sable, et je dis, regardez cette barque là. Mais ça, c'est la barque dans laquelle vous êtes invité à entrer. C'est la barque de Jésus-Christ. Et dans cette barque-là, eh bien, vous serez entièrement stabilisé. Et ça m'a touché parce que, vous voyez, Brigitte, qui est là parmi nous, elle suit cette personne. Et je la remercie parce que c'est tellement précieux. Et il y a quelques années de cela, Pierre-Daniel Martin s'est adressé à Brigitte. Il lui a dit, Brigitte, je vois que tu vas suivre une personne en détresse. Alors, est-ce que il était même plus précis que ça? Il avait dit quoi? Voilà. Donc, il t'avait annoncé, il avait prophétisé que... Oui, voilà. Voilà. Il a prophétisé donc que tu accompagnerais une personne suicidaire qui n'est pas au Seigneur mais qui irait au Seigneur. Et donc tout ça, on l'a dit donc à cette dame, mais là pour montrer vraiment le cœur du Père qui aspire à gagner quelque part le cœur de cette dame, et je trouve ça vraiment prodigieux. Donc quelque part Dieu, le royaume n'est pas passif, on n'est pas là à devoir persuader les gens, mais... quelque part, voilà, à nous aussi d'être quelque part pertinent aussi dans notre approche. Alors, je me suis posé la question suivante. Si un jour, on nous disait, je voyais une pub, salle 1860, forum de l'ésotérisme, avec divers stands, venez si vous avez des problèmes, et ainsi de suite. Sincèrement, je crois que ma première réaction serait de dire, oh le monde, qu'est-ce qui va mal, aïe, 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 aussi on voit ce qu'il y a parfois aux Dominicains là, aïe, 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 aïe. Mais comme David Lille l'a dit la dernière fois, je trouvais ça très intéressant, il m'a dit que certaines personnes voient les problèmes, mais ce qu'ils veulent pas être, ils veulent pas faire partie de la solution. C'est très intéressant. Et là, il ne s'agit pas ensuite d'accourir dans ces forums et de se lancer, parce que je crois qu'il faut quand même une conviction du Seigneur. On ne se lance pas comme ça là-bas, dans ce genre de manifestation. Il faut une conviction du Seigneur pour agir. Et c'est ce qu'a fait en tout cas une église dans le sud de l'Allemagne. Donc ils ont eu la conviction de participer comme ça à un forum ésotérique. Et... ils ont fait quelque chose qui peut-être être débattu. Mais c'est Luc Maroni qui nous disait récemment à 7, soyez rusés comme des serpents, n'est-ce pas? Soyez rusés. Et ils avaient leur stand, et ils ont pas mis église protestante évangélique Glory Life Centrum. Parce que souvent des personnes qui vont dans ces forums-là, sont des personnes qui ont complètement rejeté la foi chrétienne. Donc vous mettez ces panneaux-là, ils vont pas forcément venir. Mais ils avaient une banderole sur laquelle il y avait marqué meilleurvie.com en allemand, meilleurvie.com. Si vous voulez la guérison intérieure, venez nous voir. Et ils ont eu 20 personnes qui se sont convertis à Jésus-Christ. Ils ont rapporté qu'il y a des personnes qui ont enlevé leur image idolâtre, leur pendentif idolâtre, ils l'ont enlevé, et ils ont même eu des guérisons physiques. Donc je dis gloire à Dieu pour cela. Et j'avais pensé aussi à Bob Doe qui était venu récemment, qui disait que il y avait des personnes qui étaient allées au rassemblement Burning Man au Canada, dans le désert, hein, c'est aussi un peu New Age, dans le Nevada. Et là, je me suis aussi posé la question, voilà, ils brûlent comme ça une grande personne, ils font des choses un peu spéciales, et ils parlent même de temples, de véritables temples. Enfin bon. Et moi, la question que je me suis posée, c'est ces chrétiens qui ont établi une tente à côté de Burning Man, qu'est-ce qu'ils ont dit à ces gens qui allaient au Burning Man? Est-ce qu'ils y sont allés simplement comme ça? Ou est-ce qu'ils ont aussi, ils avaient des points de repère quelque part culturels? Ils ont bien étudié ce que ça voulait dire Burning Man et tout ça? Et moi, je pense que oui. Donc, je dirais à la fois intercession. Ah, ça c'est clair, surtout si vous allez sur ce genre de forum là, intercession, persuasion aussi, inspiration du Saint-Esprit et action. Et j'aurais bien voulu vous montrer quelques photos là en guise de conclusion, là ça va être un peu difficile, mais pour vous raconter quelque chose que j'avais peut-être déjà raconté, donc tant pis, et désolé si vous avez déjà entendu cette histoire. C'est cet universitaire Darren Wilson, vous savez, qui a parcouru le monde entier pour filmer le miraculeux. Et donc j'aime beaucoup ces vidéos. Et un jour, il a accompagné des personnes qui sont allées aux États-Unis dans un festival New Age. Et il a raconté des choses intéressantes parce que déjà quand ces personnes sont arrivées, il y a des personnes qui, donc ces personnes chrétiennes sont arrivées, d'autres personnes qui disaient ouh là 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 là, ces personnes-là sont de l'autre bord. Ces personnes-là sont de l'autre bord. Et une personne est allée voir l'organisateur du festival. Il a dit écoutez, ces personnes-là, elles sabotent notre travail. Qu'est-ce qu'elles font là? Et chose intéressante à noter, c'est que l'organisateur a dit, parce qu'il y avait une personne, ça se passait dans les toilettes, et il y a une personne chrétienne qui était dans les toilettes à ce moment-là, qui l'a entendu, l'organisateur a dit, écoutez, ça fait 3 fois que j'essaye de leur dire de partir, mais je n'y arrive pas. Vous voyez, ça c'est le Saint-Esprit qui est avec eux. Et ensuite, ils ont rencontré un certain Samy. Et Samy, si vous voyez dans la vidéo, donc bandana, amulette et tout ça. Et du coup, il y a une personne qui a prié pour lui. Qui a vu cet épisode-là? Non, personne? D'accord. Et donc, il y a une personne qui a commencé à prophétiser sur cet homme. Et cet homme, d'un coup, il se met à genoux. Il se met à genoux. D'abord, il lève les bras comme ça. Et c'était tellement émouvant à voir. Il lève les bras. Et il se met ensuite à genoux. Et là, ensuite, cette personne qui est à terre, elle dit au chrétien, elle dit, waouh, je vois un homme assis sur un cheval blanc, et il a une épée, et il est en train de chasser des esprits ténébreux. Et ça devrait peut-être vous dire quelque chose, livre de l'Apocalypse. Et là, cette personne chrétienne, elle dit, est-ce que tu veux inviter Jésus, tu veux accepter Jésus dans ta vie? Et cet homme qui était à terre, il dit, je viens de le faire. Je viens de le faire. Et c'est quelque part, je trouve ça beau, parce que quand vous voyez dans l'Apocalypse, c'est qui est-ce qui est ce cheval blanc et qui a cette épée? Il est dit, son nom est la parole de Dieu, Jésus-Christ. Et avant, on l'a chanté, Jésus-Christ, l'agneau qui s'est donné pour nous. Et ça aussi, c'est quelque chose que les gens du New Age, on peut leur dire, mais dis-moi, la conscience universelle, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? J'ai réfléchi, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Elle te fait passer par des cycles, tu dois obtenir la guérison par toi-même. Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Tandis que regarde, Jésus-Christ est d'un côté cet agneau qui s'est donné. C'est la preuve d'amour de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de se sacrifier. Et c'est ce que Dieu a fait. Il s'est sacrifié lui-même pour toi. Et en même temps, ce Jésus qui est le lion de la tribu de Judas, qui en même temps qu'on prie pour quelqu'un, désingue tous les esprits, Et ça, c'est le lion de Judas, ce lion de ce même lion qui rugit comme on l'a chanté. Et ça me fait penser aussi à cet épisode où les hommes s'adressent à Jésus, disent « Mais qui es-tu ?» Et lorsqu'il dit qui il est, les gens tombent à la renverse. Ça, c'est le lion de Judas qui rugit. Et donc, comme on l'a chanté, il est fort dans les combats. Mais quand on va maintenant, même quand on, au quotidien, on rencontre des personnes, qu'on puisse être sensible au Saint-Esprit, sensible à ce qu'il va nous dire, sensible à ce qu'on doit dire, sensible à ce qu'on doit faire. Et surtout se dire qu'on n'est pas seul et qu'il y a le Saint-Esprit qui est là et qui va agir, qui va faire des choses dont on ne soupçonne même pas l'existence, qui peuvent nous dépasser quelque part. Et moi, ça me booste de voir des personnes qui se lèvent comme ça et qui sont courageuses, qui n'ont pas peur d'être contaminées par des mouvements qui sont effectivement mensongers, mais des personnes qui vont de l'avant, des personnes qui sont offensives et qui sont éventuellement, et bien sûr, évidemment, dans l'amour. Mais Seigneur, moi je te remercie pour ton Saint-Esprit qui peut nous conduire, qui peut nous aider à bénir. Merci, merci vraiment pour Brigitte. Merci pour cette parole qu'elle a reçue. Merci pour ce rêve aussi, parce que tu as un cœur de père et tu veux attirer les perdus à toi, des personnes que tu as choisies comme Alain nous l'a dit, et tu nous utilises. Et Père, qu'on soit vraiment ouvert, qu'il n'y ait pas d'objets dans notre nappe, comme ça nous a été dit à Seth, qui quelque part nous font peur, qui nous bloquent, qui bloquent l'action du Saint-Esprit, qu'on puisse faire preuve d'audace, qu'on soit dans l'adoration, l'intercession, l'action, la persuasion, dans l'inspiration, et qu'on puisse vraiment écouter ton Saint-Esprit, et pour établir aussi les bonnes passerelles, pour faire preuve de tact, parce que parfois il suffit de quelques mots pour être une occasion de chute, mais il suffit aussi parfois juste de quelques mots pour toucher les gens, et pour que leur vie soit transformée. Mais la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais tu nous as donné une langue et tu inspires notre langue. Mais qu'on soit vraiment disponible, que notre langue soit disponible, que nos mains soient disponibles, que nos cœurs sont disponibles pour faire la différence dans ce monde. Parce que les personnes sont assoiffées, les personnes du New Age sont assoiffées. Elles n'ont pas peut-être trouvé ce qu'elles souhaitaient dans la foi chrétienne, où elles ont elles ont été exposées à des clichés, à une image poussiéreuse de la foi. Mais à nous aussi, de leur montrer quelle est la dimension, quelles sont les multiples dimensions de la foi chrétienne qui sont là et que nous sommes appelés aussi à manifester, parce que nous-mêmes on est appelés à être un témoignage. Notre vie parle, notre langue parle, notre bouche parle, mais c'est notre vie qui parle, les fruits de l'esprit en nous qui peuvent aussi attirer, les Christ en nous qui peuvent attirer ces gens-là. Merci Père pour ta grâce, merci pour l'équipement dont tu nous revêts pour toucher ces gens-là. Au nom de Jésus. Amen. Amen.